Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Canal Académie et Regards Croisés en particulier se penchent aujourd'hui sur la question de l'illettrisme. Un colloque était organisé à l'Institut, c'était le 9 février, sous votre égide. Bertrand Saint-Cernin, bonjour.
Bonjour.
Vous
monsieur.
Êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et avec nous pour en parler plus précisément avec l'approche scientifique de cette question, Pierre Buzer, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes neuropsychologue et vous êtes membre de l'Académie des sciences. Et vous nous apporterez très certainement au cours de cette émission un regard extrêmement précieux sur l'état de la recherche et l'état de la science concernant ce phénomène de l'illettrisme. Mais d'abord, Bertrand Saint-Cernin, une question qui peut paraître toute simple. Pourquoi s'intéresser à la question de l'illettrisme? Est-ce un drame national au point que les plus hautes autorités, au point que les élites intellectuelles se sentent obligées de s'y consacrer de manière attentive?
Écoutez, oui, c'est un problème, c'est un drame, dans la mesure où, d'après les estimations à peu près concordantes, on estime que sur chaque classe d'âge, il y a à peu près 100 000 enfants, peut-être un tout petit peu plus, qui éprouvent des difficultés importantes à lire et à écrire. Et donc, si on pouvait réduire de façon significative ce chiffre, et des exemples étrangers montrent que c'est possible, ou même des expériences purement françaises, cela serait effectivement d'une grande importance.
Quand vous dites 100 000 enfants, vous désignez une population en particulier, une classe d'âge est plus touchée qu'une autre ?
Non, je veux dire qu'à chaque année, à chaque génération, on estime qu'il y a environ entre 13 et 15% des enfants qui, au moment où ils rentrent en sixième, éprouvent de sérieuses difficultés pour lire et pour écrire, et les enquêtes qui ont été faites par le ministère montrent que si ces problèmes ne sont pas résolus quand les enfants sont jeunes, le risque qu'ils traînent ce handicap tout au long de leur scolarité est grand, et lorsque, à l'occasion de la journée appelée la JAPD, organisée par le ministère de la Défense, ont fait des tests auprès des des jeunes gens
ce qui
de 17
du service national.
On s'aperçoit qu'une proportion importante de ceux qui avaient des difficultés lorsqu'ils avaient 10 ou 11 ans les ont conservés. Donc c'est un problème très important.
Quels sont les instruments de mesure dont on dispose pour évaluer l'ampleur du phénomène? Parce que la JAPD, c'est une journée, hein, c'est ce qui subsiste du service militaire. On ne peut plus guère les évaluer autrement que par l'intermédiaire du système scolaire.
Alors, même les tests qui sont faits au moment de la JAPD sont organisés par la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale, qui dispose d'instruments tout à fait techniquement au point et qui permettent d'avoir donc une précision sérieuse sur la nature du phénomène, peut-être pas sur ses causes. Et c'est là où la présence de M. Buzer sera importante pour nous.
Une distinction peut-être s'impose, la distinction entre illettrisme et analphabétisme.
Alors, l'analphabétisme, c'est ce qui se produit lorsqu'une personne n'a pas eu l'occasion d'apprendre à lire ou à écrire. Et on peut dire que toute l'humanité a été analphabète jusqu'à une période très récente. Et une grande partie des hommes restent, même avec des civilisations et des cultures très complexes, peuvent être illettrés. Le phénomène d'analphabète, le phénomène l'illettrisme est un mot récent. C'est un mot qui est apparu en français à la fin des années 70, il a été lancé par ATD Quart-Monde. Il est peut-être trop abrupt d'ailleurs. Avant, on parlait de difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. On emploie le terme d'illettrisme pour désigner les difficultés d'apprentissage de la lecture, de l'écriture et également du calcul de la part d'enfants ou de jeunes gens qui ont été scolarisés plusieurs années.
Et on mesure l'illettrisme à partir d'un certain âge ?
Non, on peut le mesurer. On le fait, par exemple, en France, systématiquement, au cours de l'enseignement primaire à deux reprises. Des pays étrangers ont d'autres systèmes, mais d'une manière générale, des enquêtes internationales se sont multipliées au cours des 15 dernières années et Je dirais qu'avec, bien sûr, la marge d'erreur de toute évaluation statistique, on a quand même une idée relativement précise de l'ampleur du phénomène.
Bertrand Saint-Cernin, est-ce que le phénomène s'aggrave d'année en année ?
Personne n'en sait rien. On ne peut pas dire que... Parce que, si vous voulez, ce que l'on connaît, par exemple, de la France, il y a 100 ans ou même 80 ans, le certificat d'études, à cette époque-là, avant la guerre de 14, n'était passé que par un quart à un cinquième de la population. Les trois autres quarts, on ne sait pas très bien ce qu'il en advenait. Et si on prend la génération qui est sortie de l'école, qui est née en 1900, on peut dire que de la population rurale, 41% ont été blessés ou tués au cours de la guerre de 14. On ne sait donc absolument pas ce qu'il est advenu d'eux du point de vue de la lecture et de l'écriture.
On ne dispose pas du recul suffisant, en somme.
Si, on a quand même un recul important parce qu'on a des statistiques, par exemple, les armées ont eu des statistiques relativement fiables et le test qui était utilisé dans l'armée était très simple. On faisait faire une petite narration d'une page sur un sujet qui était libre et qui permettait de voir si un jeune homme était capable de comprendre, de s'exprimer. Si, on a. Et alors, on prenait pour exemple, d'ailleurs en France, avant la guerre de 14, il y a eu une directive ministérielle. L'exemple, c'était celui de la Suisse, qui avait des statistiques dans son armée depuis 1876.
Vous parlez à l'imparfait, mais quel est le test aujourd'hui pour mesurer l'illettrisme ?
Alors, le test, il en existe différents, qui sont mis au point par l'éducation nationale, mais qui sont également mis au point par les pays étrangers. Quel en est le détail ? Je crois que M. Buzer sera plus compétent que moi pour le dire.
Mais il s'agit d'une petite narration,
gros,
d'une manière générale.
Pardon ?
D'une petite narration ?
Ah non, là on a des tests, on a des questions, des formulaires beaucoup plus compliqués maintenant, parce que non seulement on veut essayer de comprendre le phénomène, mais peut-être de préciser la nature de la difficulté rencontrée par tel enfant ou par tel autre. C'est le cas notamment de l'étude qui est faite lors de la JAPD, où c'est un test qui dure à peu près trois quarts d'heure et dont l'objet est, pour les jeunes gens qui ont témoigné de difficultés particulières, de pouvoir les orienter vers un service susceptible de les aider à surmonter ce handicap, ce que faisait avant, dans une certaine mesure, l'armée, à travers ce qu'on appelait les écoles régimentaires.
Une sorte d'affinage, en quelque sorte. On essaie
non seulement d'affinage, mais de chercher, au fond, quel genre de remède on pourrait apporter à des jeunes gens, puisque, à la différence de ce qui se passait il y a 50 ans, où on a une étude, par exemple, qui avait été faite par Zazo sur le problème de l'insertion dans le monde du travail des gens qui avaient des difficultés pour lire et pour écrire. Et on s'apercevait que les conséquences n'étaient pas socialement très sérieuses. On a toutes les raisons de croire qu'elles sont beaucoup plus sérieuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans. Donc le problème a probablement une importance sociale plus grande aujourd'hui qu'avant.
Les conséquences, on y viendra. Je rappelle les quelques points, les quatre points sur lesquels reposait votre colloque. L'évaluation des performances en lecture, écriture et calcul des élèves et des adultes. L'approche scientifique de la lecture et de l'écriture. Et là, nous allons consulter Pierre Buzer, qui est justement avec nous pour nous faire état de ses recherches. Les effets psychologiques et sociaux de l'illettrisme qui correspondent aux conséquences que vous venez d'évoquer. Et la formation professionnelle des professeurs des écoles en France et à l'étranger. Quatre points que nous allons un tant soit peu décliner en insistant sur l'aspect scientifique. Pierre Buzer, est-ce qu'il y a différentes formes d'illettrisme ?
D'abord, bonjour. Différentes formes d'illettrisme, je ne voudrais pas beaucoup m'étendre sur le problème de l'illettrisme. Parce que finalement, ce qui me concerne surtout est traduit essentiellement par les premiers stades d'apprentissage de la lecture. Parce que l'illettrisme, à mes yeux, je pense que mon confrère sera d'accord, l'illettrisme, c'est la suite,
oui,
en quelque sorte.
C'est une conséquence, c'est un
effet. C'est la conséquence. Tandis que le problème qui m'intéresse, me passionne ici, est le problème de savoir qu'est-ce qui se passe au début de l'apprentissage, quel est le premier contact que l'enfant a avec les symboles graphiques. Et comment il va réagir devant ces symboles, et comment il pourra bien réagir, mal réagir, et acquérir de mauvaises habitudes ou savoir lire. Et c'est là qu'est la clé. L'illettrisme, à mon sens, est une suite. L'enfant peut au début ne pas lire ou lire très mal et ensuite surmonter les difficultés et ne pas être un illettré pour autant. Mais il peut aussi, justement, dans cette ligne de l'impossibilité de lire correctement, disons, appelons ça dyslexie, il pourra ne pas pouvoir accéder aux connaissances, à la lecture des symboles et ensuite des textes écrits. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est essentiellement ce qui peut préoccuper, je représente peut-être une communauté qui se passionne pour ces problèmes et qui véritablement examine ces premiers stades qui sont, à notre sens, les plus importants.
Ces premiers stades n'étaient pas particulièrement observés par les scientifiques ? C'est une observation assez tardive.
Oh non, vous savez, là, il y a eu des études qui ont été faites, simplement, elles n'ont pas été très, très continues. Apprendre à lire, plus d'une centaine d'années que des auteurs se sont intéressés à ces problèmes. Ils se sont demandé, pour certains, c'était automatique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous prenez une population d'enfants, l'enfant considéré, autrefois ça commençait à l'âge de 6 ans, et maintenant ça commence à la maternelle, c'est-à-dire à l'âge de 4 ans. Bien, pratiquement, 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. À ce moment-là, l'enfant vient au contact des symboles écrits. Et il aura plusieurs, je reviendrai, si vous voulez, dessus dans un instant. Il aura plusieurs façons de réagir. Mais il y aura des enfants, de toute façon, qui n'auront aucun problème. Et ce ne sont pas eux dont nous parlons actuellement. Ils ne seront probablement pas des illettrés, ou alors s'ils deviennent des illettrés, c'est parce qu'ils n'auront rien fait pendant toute leur vie scolaire. Ça, c'est autre chose. Mais le contact même de l'enfant, de 4 ans maintenant, de 6 ans autrefois, avec les symboles graphiques, et la façon dont il voit ces symboles, et il sait les traduire ensuite, parce qu'il sait déjà parler, l'enfant, en principe. Il sait parler, mais il s'agit de faire coïncider ce qu'il entend avec ce qu'il voit. C'est ça le problème. Et pour quelqu'un qui s'intéresse pour les neurosciences en général, pour les sciences du système nerveux central, pour les sciences du cerveau, il est important de voir cette association, comment s'établit cette association entre la vision du symbole et l'audition, c'est-à-dire la phonologie en quelque sorte, puisque l'enfant devra traduire ce qu'il voit en son.
Donc pour une catégorie d'enfants, la vision ne correspond pas, l'association ne se fait pas entre l'audition et la vision.
Alors j'en arrive maintenant, on peut en arriver si vous voulez, au problème de comment se fait cette traduction. Alors il est assez classique maintenant de considérer qu'il y a deux stratégies, et ça depuis une cinquantaine d'années où on en est à peu près convaincu. Bien sûr, ça vient avec des détails, bien sûr, il y a toujours des spécialistes qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais ça, c'est la loi du genre. Mais si nous prenons d'une façon générale ce qui se passe, il y a deux stratégies dans l'apprentissage possible, dans l'apprentissage de la lecture. Ou bien, on apprend à l'enfant le béaba, qui est la méthode classique.
La méthode classique.
Le béaba, ce que nous appelons, dans des termes un peu plus savants, la conversion graphème-phonème, c'est-à-dire le graphème étant le plus petit élément graphique et le phonème étant le plus petit élément audible, en quelque sorte, et prononçable. Donc, la conversion d'un graphème en phonème, c'est quelque chose de très important pour l'enfant. Il apprend à convertir. Il voit B, A, il dit bas, etc. Ensuite, il arrive à la forme phonologique des mots, ce qui est, il acquiert ce que certains spécialistes appellent la conscience phonologique, c'est-à-dire la, cette conversion graphème-phonème qu'il acquiert progressivement. Et ensuite, je dirais, c'est gagné pour un enfant normal. Il peut ensuite, une fois qu'il aura cette, ces formes phonologiques des mots, il mettra ce mot dans son dictionnaire.
Naturellement, il procède par étapes.
Il procède par étapes. Il le mettra ce mot dans son dictionnaire et ça, il aura une sémantique. Il se créera une sémantique et à ce moment-là, ce sera sa mémoire propre qui s'enrichira. Il y a une autre méthode. Il y a une autre stratégie que certains enfants certainement utilisent, qui est de saisir la globalité, la globalité du processus de lecture. C'est-à-dire qu'il voit un mot et le devine, en quelque sorte, et l'absorbe tout de suite sous sa forme orthographique, c'est-à-dire il voit le mot écrit, ils ne font pas l'analyse alphabétique.
Pierre Buzer, on y revient dans un instant, on a bien saisi vos deux méthodes, hein, méthode,
oui, oui.
Méthode classique,
c'est pas les méthodes, ce sont des stratégies de l'enfant.
Des stratégies, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de méthode.
Non, mais méthode,
vous nous direz, justement pourquoi il ne faut peut-être pas parler de méthode, mais de stratégie.
Oui.
Dans un instant, on marque une pause. Canal Academy et Regards Croisés en particulier s'intéressent aujourd'hui à l'illettrisme avec un plateau de choix, si je puis dire, Bertrand Saint-Cernin qui a organisé un colloque à l'Institut le 9 février dernier, un colloque justement consacré à l'illettrisme, et Pierre Buzer avec lequel nous entretenions précisément, neuropsychologue, professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie, membre de l'Académie des sciences, et qui s'est attaqué à l'illettrisme dans le sens, avec l'approche scientifique, pour bien en comprendre les aspects neurophysiologiques, les aspects liés au cerveau. On parlait à l'instant des stratégies, stratégies classiques, stratégies globales. Stratégie et pas méthode, hein, parce que c'est le mot qui venait spontanément à l'esprit. Hein.
J'ai parlé de stratégie parce que nous, en général, les spécialistes du problème de lecture, d'apprentissage de la lecture, parlent de stratégies différentes. Et l'expérience prouve que les enfants utilisent tantôt une stratégie, ou plutôt que certains enfants utilisent une stratégie, la stratégie alphabétique, et d'autres enfants probablement plus rapides, probablement qui ont une autre structure mentale et qui sont plus portés sur la vision des formes globales, parce que ça, il y a une question de, ce serait presque une question de caractérologie des enfants, eh bien, à ce moment-là, ils devineront facilement un mot sur un tableau noir, et l'autre, tandis que l'autre fera B, A, BA et apprendra aussi. Le résultat, en général, quelle que soit la stratégie utilisée, et nous ne pouvons pas toujours explorer en détail cette stratégie, mais en gros, ça marche. Et c'est merveilleux, comme disent certains, de voir un enfant apprendre à lire.
Les deux marchent ?
Les deux. On ne peut pas toujours savoir, c'est ce que disent les instituteurs, notamment les gens chargés de cette pédagogie de la lecture, ne peuvent pas toujours savoir quelle est la démarche instantanée de l'enfant. Voyez, ce sont des processus très rapides, qui durent, ça dure des quelques millisecondes quelquefois, des millièmes de seconde, c'est très rapide. Vous saisissez une forme, ce qui se passe, c'est que nous, adultes, nous avons probablement les deux stratégies en permanence. Car si vous lisez un texte, dans la mesure où vous lisez des mots que vous connaissez facilement et que vous reconnaissez facilement, qui font partie de votre stock mémorisé, eh bien, vous utiliserez la méthode orthographique, vous utiliserez une sorte de vision de la forme du mot.
Les mots ont un visage, incontestablement.
Et tandis que tout à coup, vous tombez sur un mot que vous ne connaissez pas, que ferez-vous ? Vous ferez tout à coup, vous passez inconsciemment, sans le vouloir même, au béaba. Vous lisez, je dirais syllabe par syllabe, et puis vous repartez. Autrement dit, quand ce que je dis là pour un enfant vaut aussi pour l'adulte, même le lecteur expert, qui peut très bien avoir des problèmes de lecture d'un mot qu'il ne connaît pas.
Stratégie classique, stratégie globale.
Oui.
On dit habituellement que l'une est plus efficace que l'autre.
Alors ça, c'est un autre problème.
C'est une idée préconçue.
C'est un problème de méthode, parce que ce dont je parle, c'est la stratégie interne de l'enfant. Comment en est-on arrivé à la conception de cette dualité ? C'est essentiellement en étudiant des vrais dyslexiques. Des enfants, il existe toute une, je ne peux pas en parler en détail, mais enfin il existe tout un ensemble d'enfants qui sont normaux de tous les côtés, qui sont parfaitement normaux, mais qui simplement ils sont incapables d'apprendre à lire. Et ce sont les dyslexiques, les vrais dyslexiques.
Quelle que soit la méthode.
La méthode n'est pas dans le coup, rien du tout. La méthode n'est pas en question pour l'instant, j'en reparlerai tout à l'heure. Et là, ces enfants, ces dyslexiques, ne sont pas simplement justiciables d'une orthophoniste toujours, justiciables d'une orthophoniste, il faut que cette orthophoniste soit remarquable pour justement arriver à déceler. Parce qu'il est déceler les difficultés. Parce qu'il y a en fait, et c'est pour cela qu'on y a deux voies parallèles, c'est que on distingue deux types de dyslexie chez l'enfant. Soit l'enfant ne sait plus faire le béaba, n'apprend pas à faire le béaba, mais il est tout de même capable de deviner des mots. Autrement dit, il fonctionne en quelque sorte en méthode globale, en stratégie globale.
Naturellement.
J'ai pas dit naturellement. Alors, le résultat, c'est que s'il tombe sur des mots qu'il ne connaît pas, ou ce que nous appelons des non-mots, c'est-à-dire aducniser, par exemple, comme on disait autrefois dans l'annuaire des téléphones, un mot qu'on ne connaît pas et qu'on épelle. Ça, c'est un non-mot. Eh bien, l'enfant qui souffre de cette dyslexie, où il ne sait pas convertir, ne sait pas faire l'ABC, le B-A-B-A, il ne pourra pas lire ce mot. Tandis que l'autre cas, l'autre dyslexie, c'est une dyslexie où l'enfant ne peut pas lire en global, ne peut pas lire un mot, et lorsqu'il n'ira que des mots très simples, il ne pourra pas lire des mots compliqués, et surtout des mots irréguliers. Donc il y a les orthophonistes savent bien distinguer ces deux subtilités. Soit l'enfant bute sur un non-mot ou un mot qu'il ne connaît pas, nouveau, etc. Soit l'enfant bute sur un mot qu'il connaît mais qui est irrégulier, compliqué, etc. Voilà. Donc ceci a conforté l'idée de l'existence de ces deux stratégies parallèles. Voyez.
Donc toutes les dyslexies ne se valent pas.
Alors,
et il faut bien les identifier.
Toutes les dyslexies ne sont pas identiques. Malheureusement, elles arrivent toujours plus ou moins à des difficultés, mais elles ne sont pas identiques. Et ceci a conforté les théoriciens en disant, vous voyez, il y a deux stratégies, il n'y en a pas une.
Que dites-vous aux parents qui estiment que la méthode globale est responsable de la dyslexie de leurs enfants?
Je n'ai pas encore parlé de la méthode, monsieur. La méthode, pour l'instant, la méthode n'est pas en cause. Pour l'instant, c'est simplement le processus interne à l'enfant
qu'il s'agit déjà de comprendre.
Mais absolument.
La méthode, forcément,
alors,
tient compte de ce processus.
Nous y viendrons, si vous voulez bien. On peut y venir tout de suite, si vous voulez.
Mais pourquoi pas.
Nous avons devant ces... Il est né au XVIIe siècle. Et ensuite, s'est développé au XIXe siècle et au XXe. Et maintenant aussi encore, hélas, une réaction contre un apprentissage béaba. L'apprentissage béaba de la lecture étant tout de même considéré comme le plus traditionnel, le plus classique.
Et aujourd'hui, marginal. Hein.
Attendez, je vous anticipez, ce n'est pas vrai. Ce que vous dites est faux.
À l'école, du moins.
Oui, non. L'apprentissage béaba est tout de même l'apprentissage fondamental. Là-dessus, il y a des théoriciens, quelquefois un peu illuminés, qui ont dit « c'est absurde de que l'enfant se soit forcé de faire ce genre d'effort de béaba. Pourquoi ne pas lui faire redécouvrir toute la structure des mots en lui montrant les mots dans leur complétude, dans leur entité, dans leur intégrité, écrit au tableau, par exemple. Et c'est de là qu'est venue la méthode qui voudrait que l'on ne présente à l'enfant que des mots complets. Et que l'enfant apprenne à... J'ai horreur de dire cela, mais devinez les mots. Devinez les mots.
Pourquoi avez-vous horreur de dire cela ?
Parce que je suis contre la méthode globale d'une façon absolue.
L'idée de deviner les mots, mais le terme est faux en soi.
Les Anglais utilisent une assez bonne antithèse. Ils parlent des guessers et des spellers. Les guessers, ce sont des enfants qui devinent, et des spellers, ce sont des enfants qui épellent. Vous voyez la différence ? Et donc, la méthode globale s'est imposée, tout cela s'est politisé, en particulier énormément dans notre pays. En France, ça s'est particulièrement politisé, au point que, pour faire simple, maintenant, si vous êtes pour la globale, vous êtes à gauche, si vous êtes pour le béaba, vous êtes à droite. Voilà en gros les...
C'est aussi absurde que ça.
C'est complètement idiot, mais c'est comme ça.
L'idée de la méthode globale, c'est que l'enfant se situe au cœur du savoir. Hein, que
oui,
c'est le refus de la méthode d'autorité,
La méthode globale la méthode globale a des connexions avec les idées constructivistes de Piaget, par exemple. C'est-à-dire, l'enfant se crée lui-même.
C'est ça,
oui. Et on n'impose pas à l'enfant de l'extérieur. Bon, ça, c'est une, bon, c'est un, c'est tout, tout, cette, toute cette,
il apprend ces à mouvements, apprendre lui-même. Bertrand Saint-Cernin, peut-être une remarque.
Je crois qu'il y a eu une confusion. C'est, au fond, on a pensé qu'on apprenait à lire et à écrire comme on apprenait à parler, en oubliant que, dans le premier cas, c'est quelque chose qui est naturel à tous les hommes, tandis que l'apparition de l'écriture est très tardive dans l'histoire humaine. Ça a 3000 ans, c'est-à-dire, c'est très peu de choses. Et donc, pour apprendre quelque chose qui est artificiel, qui est une technique, eh bien, il faut employer des méthodes qui ne sont pas naturelles, entre guillemets,
dure.
En tout cas, qui demandent un apprentissage particulier. Personne n'imaginerait qu'on apprend à nager ou que l'on apprend à peindre spontanément en gribouillant. Eh bien, c'est la même chose pour la lecture et pour l'écriture.
Exactement. Il y a donc une association de tendances philosophiques cette association a été extrêmement puissante il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans pour préciser l'apprentissage par la méthode globale. Maintenant je parle de méthode. L'apprentissage par la méthode globale est effectivement un des sous-produits de cette tendance plus générale qui est liée à cette constructivisme, cette attitude constructiviste auquel appartenait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été lancée par Piaget, par d'autres.
Reprenez-moi si je me trompe, aujourd'hui on dit que c'est la méthode semi-globale qui s'applique généralement.
Alors je continue.
Que faut-il en penser ?
Je pense encore plus de mal que de la méthode globale. Mais vous savez, je ne mâche pas mes mots, je ne crains plus rien. Non, le problème, c'est que on a pensé, bon, la méthode globale, on est à peu près d'accord qu'elle est dangereuse, parce que c'est une question finalement de principe de précaution. Je n'aime pas beaucoup parler du principe de précaution, mais là, je crois qu'il faut en parler. Nous ne savons pas, a priori, les risques que court l'enfant. L'enfant court un... Il y a des enfants à risque et des enfants... On ne peut pas le deviner. On ne peut pas... Vous êtes devant un enfant, vous n'êtes pas... forcément capable, même si vous avez des bons tests, de pouvoir dire, voilà, ce gamin est à risque et cet enfant ne l'est pas. Donc, à mon avis, utiliser une méthode fondée sur la... une méthode globale, est, à mon avis, un danger extrême, même si un enfant bien apprend, il apprendra et puis c'est terminé. Mais dès qu'il sera en risque, c'est par là que viendra le malheur.
En fait, on lui met sur son chemin une difficulté supplémentaire, celle de devoir deviner.
C'est-à-dire qu'on lui donne de mauvaises habitudes. Et alors maintenant, la semi-globale. Alors on a voulu, selon la bonne méthode de faire plaisir à tout le monde, on a voulu proposer la méthode semi-globale. La méthode semi-globale qui est à peu près, en gros, je ne suis pas un enseignant de primaire, par conséquent je n'ai pas d'expérience personnelle, mais enfin, vous avez... à la maternelle, essentiellement, l'enfant, qu'on veuille ou non, il fait un peu de global. Il apprend à lire son nom, il apprend à lire papa, il apprend à lire maman. Ensuite, il arrive au CP, au cours préparatoire. Et là, il est devant deux alternances, et on le fait faire tantôt l'un, tantôt l'autre. Tantôt, on continue à deviner des mots au tableau. Tantôt, on lui fait faire du béaba, autrement dit, on le met dans la méthode alphabétique.
Et ça, ce n'est pas bon.
Parce que le gosse, il a envie de faire des choses drôles. La méthode globale est beaucoup plus amusante, même s'il arrive à des bêtises, que la méthode du béaba qui finalement est ennuyeuse. Il faut bien dire les mots comme elles sont.
Ingrate.
Et c'est moi je bon et c'est tout. Et alors si on met un enfant de CP, si on met un enfant de CP en quelque sorte devant la situation où il a tantôt à deviner ce qui est drôle, tantôt à faire du béaba, ben il devinera, il ne fera pas du béaba, seulement les erreurs viendront.
On marque une seconde pause.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est Un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Canal Académie, aujourd'hui, regard croisé avec Pierre Buzer, neuropsychologue, professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie. On s'intéresse à l'illettrisme, également avec nous Bertrand Saint-Cernin, qui a organisé à l'Institut un colloque sur ce sujet tout à fait passionnant. Et on peut le dire, ce drame national, puisqu'au début de cette émission, on disait que 100 000 personnes, 100 000 jeunes étaient concernés par l'illettrisme. C'était une estimation. Pierre Buzer, on parlait à l'instant des parents. Ce qui accroît nettement le phénomène. Pierre Buzer en parlait à l'instant des méthodes classiques, méthodes globales, semi-globales. Vous nous disiez un petit peu tout le mal que vous en pensiez, du moins pour la globale et le semi-global. En tant que scientifique, quels effets avez-vous pu observer de telle ou telle méthode ou telle ou telle stratégie sur le cerveau de l'enfant ?
Malheureusement, nous manquons beaucoup de, et ce n'est pas facile, vous savez, d'analyser. Un cerveau, ça ne s'analyse pas comme cela. Il y a des données, mais elles ne sont pas extrêmement décisives, je dirais. Actuellement, l'imagerie cérébrale, je pense qu'il faut attendre un petit peu le futur. Parce que l'imagerie cérébrale nouvelle, avec les méthodes comme l'IRM, c'est-à-dire la résonance magnétique, l'imagerie par résonance magnétique, qui est maintenant effectuée, l'IRM fonctionnelle, qui est effectuée sans aucun marqueur, sans rien du tout, c'est-à-dire qu'on peut véritablement passer un enfant à l'examen sans le traiter, sans rien du tout, un enfant normal, etc. Ça peut être très intéressant, mais ceci n'a pas... ça commence à être fait, il y a des résultats, mais il n'y a pas de résultats. Si vous voulez, les résultats ne sont pas clairs et ne tranchés, ce serait trop simple. Ce serait trop simple qu'on puisse trancher en disant, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Donc nous sommes encore en plein dans les difficultés. Alors il y a tout de même des données, bien sûr les neurophysiologistes se sont beaucoup, les neuropsychologues se sont beaucoup penchés sur cette affaire, se sont beaucoup intéressés. Et alors on assiste à ce que nous appellerions dans notre jargon une somatisation de ces dyslexies, c'est-à-dire qu'on dit voilà, nous avons, il y a certains dyslexiques, et en particulier ce sont des dyslexiques profonds, certains dyslexiques qui ont des difficultés parce que un certain centre nerveux ne fonctionne pas correctement. Alors il y a deux explications qui valent ce qu'elles valent, qui bien entendu ont soulevé des quantités de protestations, mais de contestations et de contre-expériences. Il y en a une qui dit le gamin qui ne peut pas apprendre à lire, c'est parce qu'il ne sait pas correctement distinguer ce que nous appelons les transitoires, ce que les physiciens appellent les transitoires, c'est-à-dire bas, par exemple, ou da, c'est-à-dire les phonèmes prononcés très rapidement, la montée est très rapide, da. Eh bien, à ce moment-là, ils ont préconisé toute une méthode, aux États-Unis, vous pouvez la voir sur Internet d'ailleurs, vous pouvez même télécharger un CD, je crois, faut payer, mais télécharger un CD où vous avez à ce moment-là des phonèmes artificiels à croissance lente. Et ça marche mieux. Il paraît que les enfants, progressivement, font des progrès juste en écoutant ces phonèmes artificiels, lents, qui sont plus lents que la façon dont nous parlons, et qui leur permet progressivement d'améliorer leur score. Ça, c'est une chose. Il y en a une autre, c'est que pour certains autres auteurs, les yeux, chez certains dyslexiques, les yeux présenteraient des petites saccades, et ces saccades feraient finalement que l'image glisserait devant les yeux. Et là aussi, on préconise un certain nombre de méthodes de correction pour améliorer la possibilité. Mais ce sont des voies qui ne sont peut-être très intéressantes, c'est vrai, elles ont été très populaires aux États-Unis, maintenant elles le sont un peu moins. Il y a aussi, il faut dire, et ça je n'en parlerai pas, simplement je leur présente mes critiques, il y a aussi des charlatans. Il y a beaucoup de charlatans qui naviguent dans ces eaux un peu troubles de la dyslexie, et je crois que là je n'en parlerai pas parce que c'est véritablement difficile. Moi, j'en ai découvert sur Internet il y a peu de jours encore. Ce sont des choses qui sont... Ils veulent corriger la vue avec des prismes ou des choses de ce genre. Personnellement, je ne suis pas...
Si je vous suis bien, Pierre Buzer, on a somme toute que des données empiriques sur le sujet.
C'est malheureusement ce qu'on peut dire. Vous comprenez que, d'une façon générale, les dysfonctionnements cérébraux, ça ne se corrige pas facilement. Et surtout un dysfonctionnement qui souvent est d'origine génétique, car les vrais dyslexiques, la dyslexie est probablement d'origine génétique, c'est-à-dire héréditaire. Nous connaissons suffisamment de maladies qui sont liées à des dysfonctionnements cérébraux, qui sont les unes héréditaires, les autres non, et qu'on n'arrive pas à corriger réellement.
Mais en deux mots, est-ce qu'on peut dire qu'une méthode crée un dysfonctionnement dans le cerveau ?
Je n'irai pas jusque-là. Je dirais simplement que, je reviens à ma critique de la méthode globale ou les assimilés, c'est que ça met en danger, je dis qu'elle est, cette méthode met en danger tous les enfants qui devront tôt ou tard, car tous les enfants devront tôt ou tard acquérir une méthode de lecture alphabétique. Ça, c'est mon point de vue. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et si on leur colle, si on leur donne la méthode globale comme cela, et sans jamais les faire passer par le détour de la méthode alphabétique, la plupart passeront très bien l'examen, si je puis dire, mais il y en aura trop qui n'apprendront pas à lire. Voilà mon point de vue.
Et là, on tombe évidemment dans la question, Bertrand Saint-Cernin, des effets psychologiques, sociaux de l'illettrisme. Est-ce qu'on a mesuré aussi l'étendue des conséquences de ce phénomène ?
Écoutez, c'est une question difficile. Je crois qu'il y a un certain nombre d'études. La connaissance, par exemple, de l'illettrisme chez les adultes en France, l'INSEE mène actuellement des études sur ce sujet. On commence à connaître un peu mieux statistiquement l'ampleur de ce phénomène. Mais je dois vous dire que sur ce problème-là, je ne me hasarderai pas à m'étendre. Je n'ai pas vraiment une connaissance suffisante du phénomène. Je crois que, en revanche, pour enchaîner sur ce que M. Buzer vient de dire, il semble qu'on peut trouver des réflexions utiles et relativement simples et de bon sens pour aborder un des grands problèmes collectifs qui se posent en France à l'heure actuelle, qui est la formation professionnelle des professeurs des écoles. Je crois que c'est là un problème très important. Pour mesurer son ampleur, on peut dire que la génération des professeurs des écoles qui sortiront en 2005 des IUFM, au cours de leur carrière, auront entre leurs mains 30 millions d'écoliers jusqu'à ce qu'ils prennent eux-mêmes leur retraite. Donc, si une action peut être menée pour améliorer leur formation, on voit tout de suite le bénéfice qu'elle peut avoir pour l'ensemble de notre pays, car nous sommes dans une compétition international entre tous les pays de l'Union européenne, et malheureusement, il faut bien dire que les enquêtes internationales nous mettent à un rang moyen, peut-être même médiocre, en ce qui concerne ces problèmes de lecture, d'écriture et de calcul.
Une action est-elle menée auprès de ces professeurs des écoles, de ces instituteurs qui ont le poids de cette responsabilité sur leurs épaules ?
Alors, une action est menée, mais je veux dire que elle est quand même, les IUFM ont été décentralisés. Et au fond, quand on regarde les études, par exemple, que le Comité national d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur a conduites sur ce problème, on s'aperçoit que on ne connaît pas très bien dans le détail les méthodes qui sont utilisées, et quand on regarde les témoignages des élèves des IUFM, on aboutit à une constatation qui est très simple. La durée des études des professeurs des écoles comporte 3 années minimum pour obtenir la licence. Ensuite, en général, 1 année de préparation pour passer le concours des instituts de formation des maîtres. Et ensuite, 1 année de scolarité dans les IUFM, qui elles-mêmes se divisent en 2 parties d'un semestre chacune, un semestre de stage dans les classes et un semestre d'enseignement. Si vous voulez, pour prendre une comparaison, c'est comme si un ingénieur était formé en 5 ans, en 10 semestres, par exemple un ingénieur des travaux publics, et que les techniques qu'on lui apprendrait pour apprendre à construire des routes et des ponts ne prendraient qu'un semestre de sa formation. Je schématise peut-être, mais on en est là, à peu près.
Ce qui représente quand même une anomalie. Alors j'imagine que
c'est une anomalie.
Les pouvoirs publics sont alertés sur cette
Alors,
question.
Alors quand on compare aux pays étrangers, ou quand on compare à la situation de la France, c'est tout à fait paradoxal. Il y a 60 ans, les écoles normales, on peut dire, ont eu du plomb dans l'aile à partir des années 41. C'est sous le régime de Vichy qu'elles commencent à décliner. Avant, la formation professionnelle se faisait en 3 ans à partir de jeunes gens qui étaient recrutés très tôt, à 17 ans à peu près, 16-17 ans, et on peut dire que c'était une formation professionnelle solide, mais qui était au fond très dirigée. Autrement dit, quand on regarde les manuels du maître, il y avait une progressivité des exercices, il y avait une méthode de répétition et de correction du jour au lendemain des exercices, et au fond, pour donner une idée de ce que c'était la méthode qui est encore utilisée pour l'enseignement du français langue étrangère, ce qui n'est pas du tout d'ailleurs incompréhensible, puisque avant la guerre de 14, on estime que 50% à peu près des enfants qui étaient scolarisés en France avaient le français pour langue maternelle. Ils avaient soit un patois, soit une langue régionale comme langue maternelle. Et on ne constate pas de difficultés particulières liées au fait que la langue de l'école, le français, n'ait pas été la langue maternelle d'une partie importante des enfants. En revanche, on s'aperçoit que les méthodes d'apprentissage sont... C'est un métier, un instituteur apprend 8 disciplines différentes aux enfants. Ça ne s'improvise pas. Si génial soit-on, il faut quand même du temps pour apprendre à enseigner le français, les leçons de choses, des éléments de physique, des éléments d'arithmétique, etc., de l'histoire de France, de la géographie. Ce sont des métiers difficiles et l'instituteur est à la fois le professeur, il donne des cours, mais c'est aussi le répétiteur. C'est celui qui surveille le travail des enfants, qui les fait répéter, qui corrige leurs exercices, et c'est donc un métier complexe.
Qu'il soit en septième ou en maternelle, l'instituteur reçoit la même formation.
Alors,
c'est un petit peu curieux.
Oui, mais l'expérience montre quand même, si vous prenez par exemple la composition du corps enseignant des classes préparatoires, empiriquement, on s'aperçoit que les professeurs qui sont en classe préparatoire sont très souvent des gens qui ont à peu près une vingtaine d'années d'ancienneté. Autrement dit, empiriquement, on sait que... Il faut quand même du métier pour apprendre à des enfants à lire et à écrire.
Ces questions que nous avons abordées, celles des méthodes globales, semi-globales, classiques, elles vous intéressent, vous, à des titres différents, mais est-ce qu'elles intéressent vraiment les instituteurs, les professeurs des écoles, l'éducation nationale? Est-ce qu'on s'y attaque de près?
Ah, écoutez, très certainement. Et je voudrais dire une chose qui m'a beaucoup frappé. Quand on regarde les exemples étrangers, quand on regarde d'ailleurs la situation en France dans différentes régions, on s'aperçoit que un système d'éducation est quelque chose de beaucoup plus plastique qu'on ne le croit, beaucoup plus réformable, et on peut obtenir une amélioration en un nombre assez limité d'années. Et donc je crois qu'on peut être confiant si une volonté politique existe, une volonté collective. Ce sont des problèmes qui sont améliorables. Parce que finalement, il y a quand même une expérience importante, et M. Buzer le montrait, des évidences assez simples qui peuvent quand même être communiquées.
L'illettrisme est au menu de ce regard croisé. L'illettrisme, colloque organisé le 9 février à l'Institut, sous l'égide de Bertrand Sassernin, notre invité aujourd'hui, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur émérite à Paris 4, et Pierre Buzer, qui est membre de l'Académie des sciences avec nous pour l'approche strictement scientifique, approche globale, et je n'ose évoquer le terme de global puisque nous en avons largement parlé, également sous l'aspect assez critique de la part de Pierre Buzer, qui voulait répondre d'ailleurs à l'instant même à Bertrand Sassernin sur la capacité de notre système à se réformer.
Je voulais simplement dire à mon cher confrère Sassernin que je ne perçois pas actuellement, bien que n'étant bien entendu pas dans l'enseignement surtout primaire ni secondaire, mais primaire, je ne perçois pas actuellement cette volonté de réforme qui devrait nous animer devant la puisque d'une part nous avons la catastrophe de l'illettrisme que vous avez si bien décrite, et d'autre part nous avons l'impression d'un corps enseignant d'une part qui n'est pas préparé, très souvent est mal préparé aux, et ça vous l'avez bien souligné à la suite de leur mauvaise préparation aux IUFM, cette préparation insuffisante dans les IUFM, et d'autre part, par un certain conservatisme du corps enseignant, en particulier au niveau des inspecteurs, qui sont relativement... il a fallu longtemps pour que la méthode globale soit, en gros, supprimée en tant que telle.
Mais elle est supprimée véritablement ?
Elle est à peu près supprimée. Je ne connais pas les détails, parce que ça dépend des académies.
Mais est-elle remplacée par la méthode classique ?
Semi-globale.
Semi-globale, mais donc vous avez montré tous les effets aussi néfastes.
À mon avis, ce n'est pas bon. Mais voilà. Voilà mon point de vue. La difficulté actuelle vient, nous ne savons pas d'où elle vient, mais en tout cas, les discussions que j'ai pu avoir avec certains membres des corps enseignants me montrent, et des inspecteurs en particulier, m'enseignent qu'une partie du corps des inspecteurs de primaire est effectivement assez peu réceptif à ce que nous venons de dire maintenant, à nos remarques.
C'est le moins qu'on puisse dire. On peut être largement sanctionné quand on utilise une autre méthode que la méthode globale.
Car il y a toujours, exactement ce que vous dites est très juste, car il y a toujours chez l'instituteur la peur de la sanction ou de la non-promotion.
Oui. Bertrand Sassanin, vous aviez un exemple anglais qui quand même ramenait l'optimisme dans le débat.
Non, je voudrais dire deux choses. Je crois, nous avons à plusieurs reprises indiqué un point qui est très important. C'est que les instituteurs et les corps d'inspection ont été nourris dans l'idée qu'il fallait considérer les enfants comme des petits créateurs, des artistes dont il fallait guider finalement les pas, mais qui avaient une sorte d'inventivité naturelle. Cette inventivité existe très certainement dans de très nombreux domaines et dans l'apprentissage, par exemple, de la langue, de savoir parler. Mais je crois qu'on a méconnu, et c'est un point sur lequel Monsieur Buzet a été parfaitement clair, on a méconnu le fait qu'il y a un côté artificiel. C'est une création récente de l'histoire humaine dans l'écriture et donc la lecture, et que dans la mesure où ce n'est pas une action naturelle comme de marcher, de courir ou de manger, il est évident que cela implique des techniques. Et il est tout à fait vrai, et M. Buzet avait raison de le souligner, que il est apparu pendant longtemps, et ça doit être encore l'état d'esprit d'un certain nombre de membres importants du corps enseignant, que c'était faire un peu injure à l'enfant que d'imaginer qu'il fallait lui apprendre des techniques qui ne sont pas amusantes dans les premiers pas, et que c'était un point important. Alors, vous évoquiez l'exemple de l'Angleterre. Effectivement, l'Angleterre était dans une situation dans les années, au milieu des années 90, très semblable à celle de la France, avec des difficultés importantes concernant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais ce qui distinguait l'Angleterre de la France, c'était la culture de l'évaluation. Autrement dit, en Angleterre, l'idée qu'une partie des écoles avait de mauvais résultats faisait partie, je dirais, d'une évidence que personne n'était prêt à contester. Et donc, quand Tony Blair est arrivé au pouvoir, il a mené, avec une attitude qui nous paraîtrait très jacobine, et qui l'est, parce que les Anglais, lorsqu'un problème national leur paraît essentiel, sont jacobins, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une échelle de commandement,
claire,
qu'il y ait des buts clairs, qu'il y ait des moyens indiqués, et ils ont mené une action auprès des écoles dont ils estimaient que le résultat était mauvais. Et cette action, dont je n'indiquerai pas les détails, mais qui a fait l'objet d'ailleurs par son responsable d'une communication organisée par le ministère de l'Éducation nationale il y a un an et demi, rue Danton, ici, eh bien, montrait que en 5 ans, la situation avait évolué de façon importante.
5 ans, c'est extrêmement court.
5 ans, c'est très court. La France a tous les instruments techniques d'une évaluation de la situation. Je vais vous donner un exemple. En Auvergne, a été publié par le Comité économique et social et par le Conseil régional un livre portant sur l'exclusion en Auvergne. Un chapitre était consacré au problème de l'illettrisme. Ce chapitre avait été réalisé par le responsable de la Fédération de l'Éducation nationale dans la région. Eh bien, il montrait très bien des inégalités existant entre les écoles des différents départements ou à l'intérieur d'un même département, d'un différent village. Autrement dit, ce que je crois, c'est que si on se donne les moyens, et nous les avons techniquement, de voir la réalité en face, de constater les inégalités, une action politique et une action pédagogique relativement simple et qui pourrait porter des fruits assez rapidement pourrait être conduite. C'est en ce sens que je paraissais optimiste, peut-être trop, mais je crois que c'est une chose possible et je crois surtout que c'est une chose nécessaire. Il est quand même gênant que notre pays, dans certaines enquêtes internationales, apparaisse comme au 13e rang parmi les pays de l'Union européenne, alors que les moyens financiers consacré par élève, le coût par élève dans l'enseignement primaire, d'après la dernière enquête conduite par la Cour des comptes et publiée en 2003, montrait que le coût par élève avait doublé en 20 ans. Alors, ça tient au vieillissement du corps enseignant, ça tient à bien des aspects, mais je veux dire que nous consacrons, par rapport à d'autres pays, des moyens substantiels à l'enseignement primaire et à l'enseignement secondaire. En revanche, nous consacrons trop peu de moyens à la formation des professeurs de l'enseignement du premier degré et nous n'avons pas une doctrine clair et suffisamment de bon sens sur des problèmes pour lesquels existe quand même un accord assez grand entre les gens qui connaissent par le menu ces problèmes.
Pour peu qu'il y ait une bonne volonté, il n'y a pas de fatalité à
l'illettrisme. Je ne crois pas qu'il y ait de fatalité. J'espère. Et je crois que ce sont des choses réformables, pas très, relativement assez vite.
D'autant que c'est une priorité nationale.
Oui.
À mon sens, c'est une priorité
très importante.
Mais officiellement, ça l'est.
Ça l'est, et je crois certainement que c'est une réalité.
Je vous remercie beaucoup, Pierre Buzère. Pierre Buzère, vous êtes, je le rappelle, neuropsychologue et vous êtes membre de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie pour cette approche scientifique, cette question de l'illettrisme sous un angle bien particulier, d'avoir détaillé à la fois les stratégies et les méthodes. Bertrand Saint-Sernin, merci beaucoup. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et vous aviez organisé ce colloque ici même à l'Institut. Ce colloque consacré à l'illettrisme, c'était le 9 février dernier. Thank you.